En votre compagnie, Idrissa Seydoudia, pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Bonjour. Mali, cinq chefs d'État d'Afrique de l'Ouest réunis ce jeudi à Bamako ne sont pas parvenus à faire accepter à l'opposition leur plan pour sortir le pays de la crise. Mais ils se retrouveront lundi en sommet extraordinaire par visioconférence. Nous y reviendrons dans un instant avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré. En Côte d'Ivoire, les principaux mouvements d'opposition, dont le PDCI et les FPI, ont demandé hier au gouvernement de reprendre avant l'élection présidentielle d'octobre la réforme de la commission électorale indépendante dont elle conteste l'impartialité, et ce à la suite d'un arrêt de la Cour africaine de justice que l'opposition avait saisi. Cette dernière s'est aussi déclarée contre un éventuel troisième mandat pour le président Alassane Ouattara. L'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 81 ans dans un hôpital de Dar es Salaam, a annoncé le président John Magufuli à la télévision nationale. Après ses deux mandats présidentiels, M. Mkapa demeura actif en prenant part à diverses médiations régionales. Plus récemment, il fut chargé d'une médiation dans la crise politique burundaise qui n'avait pas permis de rapprocher partis au pouvoir et opposition en exil. Au Soudan, un second charnier a été découvert depuis la chute de l'ex-président Omar el-Bashir. Il contenait les corps de 28 officiers de l'armée qui avaient tenté un coup d'État en 1990 pour le renverser. La fosse commune se trouvait à Omdurman, ville jumelle de Khartoum, a annoncé jeudi le procureur de la République. La Banque africaine de développement, la BAD, a annoncé hier accorder un total de 285 millions de dollars de financement au Burkina Faso, au Mali, à la Mauritanie, au Niger et au Tchad. Ce soutien financier permettra de renforcer les systèmes de santé des pays concernés, de soutenir la résilience économique et d'atténuer l'impact social de l'épidémie de COVID-19, selon la BAD. À raison de la pandémie, le président américain Donald Trump a renoncé hier à la convention républicaine qui devait avoir lieu à Jacksonville en Floride le mois prochain pour l'introniser comme candidat du parti à la présidentielle du 3 novembre. La Floride, qui a enregistré un record de décès en 24 heures hier, est l'un des États du Sud et de l'Ouest où l'épidémie progresse le plus ces dernières semaines. Certains événements maintenus à Charlotte, où devait se tenir initialement la convention, auront tout de même lieu fin août par respect pour les contrats signés. Le seuil des 4 millions de cas de COVID-19 franchi aux États-Unis et aussi en Amérique latine et aux Caraïbes, cap des 3 millions dépassés en Europe. La progression de l'épidémie inquiète aussi en Asie et en Australie et contraint de nombreux pays à durcir les mesures sanitaires. On déplore plus de 143 000 décès aux États-Unis et un total de 627 307 morts dans le monde pour plus de 17 millions d'infections selon un bilan établi jeudi par l'AFP. Un peu plus de 16 millions d'Américains sont au chômage et 32 millions touchent une indemnité temporaire. Une enquête officielle a été ouverte jeudi par l'inspecteur général du ministère américain de la Justice sur l'action très controversée de policiers fédéraux à Portland dans l'Oregon, où des heurts opposent presque toutes les nuits les forces de l'ordre à des manifestants antiracistes. Même le maire de la ville a été aspergé de gaz lacrymogène en allant à la rencontre de milliers de manifestants. Le président Trump a ordonné ce déploiement d'agents fédéraux dans certaines villes du pays pour, selon lui, rétablir la loi et l'ordre. Enquête également sur la dispersion le 1er juin à Washington par des forces de l'ordre d'une manifestation aux abords de la Maison-Blanche. Un juge fédéral a ordonné hier la libération de Michael Cohen, l'ancien avocat et homme de confiance de M. Trump, selon son avocat. M. Cohn avait été réincarcéré. La suite de nos informations. Au Mali, les 5 chefs d'État en mission n'ont pas ouvert de nouvelles négociations telles que l'imaginait le M5-RFP. Ils ont entendu toutes les parties et ont entériné toutes les propositions de la précédente mission de la CEDEAO, conduite par l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan. Le M5-RFP n'est pas d'accord avec cette décision des 5 présidents. Les grandes décisions pour la résolution de la crise malienne seront prises lundi prochain lors d'un sommet extraordinaire par visioconférence de tous les chefs d'État de la CEDEAO. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
IBK-RS en place, avec toutes ses prérogatives constitutionnelles, dont celle de choisir lui-même son premier ministre qu'il peut démettre à tout moment. Un gouvernement d'union nationale sera formé dans le plus bref délai, avec des opposants qui acceptent d'y participer. Telles sont les décisions prises par les 5 chefs d'État de la CEDEAO qui étaient en mission à Bamako. Imam Mahmoud Diko, personnalité morale du M5-RFP.
Rien n'a bougé pour le moment. On nous a rien dit que j'ai pu comprendre. Je voulais vraiment le dire. Sincèrement, je l'ai dit et je le redis, nous sommes un peuple debout, nous ne sommes pas un peuple soumis ou résigné. Moi, je le dis, je préfère mourir martyr que de mourir traître. Les jeunes gens qui ont perdu leur vie ne l'ont pas perdu pour rien. Et si vraiment ce qu'on nous a dit, c'est à cause de cela qu'ils se sont réunis, je pense que rien n'a été fait pour le moment.
Les grandes décisions pour la résolution de la crise malienne seront prises lundi prochain lors d'un sommet extraordinaire par visioconférence de tous les chefs d'État de la CEDEAO. C'est ce qu'a déclaré Mahamadou Issoufou du Niger, présent en exercice de la CEDEAO après les échanges avec les différentes parties. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, le groupe armé M23 a nié toute responsabilité dans l'attaque d'une position de l'armée congolaise ayant coûté la vie mercredi à 3 soldats dans l'est du pays. Le point avec Abdourahman Dia.
Eli Moutela, le porte-parole du mouvement du 23 juin, a qualifié cette information de fausse. Il n'y a pas de combat entre les membres du M23 et les FARDC, a-t-il dit. Sur Twitter, le président du M23, Bertrand Bizimwa, a qualifié ces informations de manipulation de l'opinion pour créer et entretenir un conflit imaginaire. Ces responsables du groupe répondaient aux accusations de la société civile et du baromètre sécuritaire du Kivu, qui avait indiqué mercredi que des combattants du M23 avaient attaqué une position de l'armée dans le territoire de Rutshuru, au nord de Goma. Les forces armées de la RDC n'ont pas confirmé cet accrochage. Dans un communiqué daté du 17 juillet, le M23 avait déjà affirmé que la majorité de ses ex-combattants sont sur le sol congolais où ils attendent impatiemment la mise en œuvre des engagements de Nairobi. Dernière rébellion à dominante Tutsi soutenue par le Rwanda et l'Ouganda, le M23 a été défait en novembre 2013 par l'armée congolaise appuyée par les casques bleus de la MONUSCO.
Les propos du secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui a accusé le directeur général de l'OMS d'avoir été acheté par la Chine, sont faux et inacceptables, a répliqué hier Tedros Adhanom Ghebreyesus. Le point avec Nathalie Barge.
Ces commentaires sont faux, inacceptables et sans aucun fondement, a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus suite aux accusations de Mike Pompeo mardi lors d'une rencontre avec des parlementaires britanniques à Londres. Selon la presse britannique, M. Pompeo aurait qualifié l'organisation de politique, accusant son directeur d'avoir été acheté par le gouvernement chinois à qui il devrait son élection à la tête de l'OMS. Le chef de la diplomatie américaine aurait aussi imputé les morts britanniques du coronavirus aux échecs de l'organisation. Depuis le début de la pandémie, l'OMS a été régulièrement critiquée par plusieurs pays et les États-Unis ont dénoncé la complaisance dont elle aurait fait preuve vis-à-vis de Beijing. Les États-Unis ont formellement lancé le 8 juillet leur procédure de retrait de l'agence onusienne, mettant à exécution les menaces du président Donald Trump, qui avait annoncé ce retrait au mois de mai.
La Minute Éco, John Linden.
Des milliers de propriétaires de restaurants et de bars sud-africains sont en grève contre les mesures de confinement qui les empêchent de vendre de l'alcool ou de faire du commerce après 21 heures. Le secteur de l'hôtellerie est l'un des plus durement touchés par les restrictions gouvernementales imposées à la fin du mois de mars pour freiner la propagation du nouveau coronavirus. À la fin du mois de juin, les restaurants ont de nouveau été autorisés à proposer des services assis, mais à capacité limitée et sans servir d'alcool. Le secteur de l'hôtellerie a perdu environ 400 000 emplois depuis la fin du mois de mars. Quelque 3 milliards de personnes parmi les plus pauvres de la planète devraient recevoir un revenu minimum provisoire pour ralentir la pandémie de coronavirus. C'est ce qu'estime le Programme des Nations Unies pour le Développement, pour qui environ 199 milliards de dollars par mois pourrait fournir un revenu minimum garanti pendant 6 mois aux 2,7 milliards de personnes vivant en dessous ou juste au-dessus du seuil de pauvreté dans 132 pays en développement. Ici aux États-Unis, Tesla, le constructeur de véhicules électriques, a, à la surprise du marché, gagné de l'argent pour le 4e trimestre de suite, entre mars et juin, malgré la fermeture de son usine californienne pendant plusieurs semaines et une légère baisse de son chiffre d'affaires. Tesla a précisément dégagé un bénéfice net de 104 millions de dollars au 2e trimestre, alors que sur la même période en 2019, le groupe d'Elon Musk avait perdu 408 millions de dollars. À Wall Street, l'action Tesla a pris un bond de plus de 4%. La France a publié jeudi un décret abaissant jusqu'à la fin 2020 de 25 à 10% le seuil à partir duquel elle exerce un contrôle sur les investissements étrangers afin de protéger les entreprises françaises de secteurs sensibles fragilisés par la pandémie de COVID-19. Désormais, Paris aura la possibilité de bloquer les acquisitions par des investisseurs non européens de plus de 10% du capital d'entreprises françaises cotées en bourse et exerçant dans certains secteurs jugés stratégiques comme la défense, l'énergie, l'aérospatiale, les transports ou les biotechnologies. L'Allemagne a pris en main un décret similaire pour protéger ses entreprises du secteur de la santé.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. La franchise de Washington évoluant en Ligue professionnelle de football américain devient le Washington Football Team pour la saison 2020, a-t-elle annoncé 10 jours après avoir abandonné son nom de Redskins. Critiquée pour sa connotation raciste envers les Amérindiens, cette nouvelle appellation est provisoire, la franchise ayant souhaité se donner plus de temps pour en trouver une nouvelle et mettre ainsi définitivement fin à une histoire débutée en 1933. Elle s'appelait alors Redskins et était basée à Boston avant de déménager à Washington en 1937. Sur son site internet, le club de Washington, vainqueur de 3 Super Bowls, 1982, 1987 et 1991, affiche désormais une nouvelle bannière Washington Football Team Established 1932. Entendez, équipe de football de Washington créée en 1932. Les couleurs restent les mêmes, bordeaux et rouge. Le logo a lui été rétréci, première étape avant sa suppression totale. Le premier match est prévu le 13 septembre contre Philadelphie. En boxe, la légende des poids lourds Mike Tyson a annoncé qu'il va remonter sur le ring à 54 ans pour disputer un combat d'exhibition contre son compatriote Royce Jones Jr., 51 ans, le 12 septembre à Los Angeles. C'est par une affiche en page d'accueil du site internet de son nouveau projet sportif, Legend Only League, une ligue invitant les grands noms du sport, quelle que soit leur spécialité, à participer à des événements exhibitions que Tyson a officialisé son retour. Selon Yahoo Sport, les gants seront moins gros et l'affrontement devrait durer 8 rounds au lieu de 12 habituels. Le rendez-vous aura lieu au Dignity Health Sport Park de Carson, ville du comté de Los Angeles, dans une salle pouvant accueillir 27 000 personnes. Mais vu la propagation galopante du coronavirus, le huis clos pourrait s'imposer. En athlétisme, le Kenyan Elijah Manogoy, 27 ans, champion du monde du 1500 mètres à Londres en 2017, a été provisoirement suspendu par l'unité d'intégrité de l'athlétisme pour manquement à ses obligations de localisation antidopage. Manogoy avait décroché l'argent des mondiaux 2015 à Pékin, avant de remporter l'or mondial 2 années plus tard à Londres. Il a renoncé aux mondiaux 2019 à une dizaine de jours de la compétition
en raison d'une blessure à une cheville. Selon les règles antidopage en vigueur, les athlètes doivent indiquer leur localisation géographique aux instances de lutte contre le dopage 90 jours à l'avance afin de permettre des contrôles inopinés hors compétition chaque jour de l'année. Trois manquements à ces obligations en 12 mois constituent une infraction antidopage.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Niger, le fichier électoral en cours de finalisation sera audité par l'Organisation internationale de la francophonie, dont une mission séjourne dans le pays. Par ailleurs, la tenue des municipales avant la présidentielle du 27 décembre, qui faisait polémique, a trouvé une solution. Reportage de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Alors qu'elle disait ne pas être en mesure d'organiser les élections municipales avant la présidentielle comme initialement prévu dans son chronogramme, du fait notamment de l'indisponibilité à temps du fichier électoral, la Commission électorale nationale indépendante vient de se raviser. Sous la pression des partis politiques de la majorité au pouvoir notamment, l'institution de Maître Souna Issaka propose la date du 13 décembre 2020 pour les tenir, soit deux semaines avant la présidentielle.
La date du 13 est celle que nous avons retenue. Nous étions plus munis par un devoir de contribuer à la recherche de la sérénité et de la paix qu'autre chose. Sinon, cette date, elle est assez sensible et fragile. Alors, vraiment, les partis politiques, vous allez devoir, vous aussi, faire votre part d'effort. C'est après tout vous qui avez voulu que ce soit avant. Eh bien, nous faisons la concession, moyennant un certain nombre d'efforts que nous allons faire. Mais de votre côté aussi, nous vous demandons de faire les efforts.
La nouvelle date satisfait tout le monde, l'opposition y compris, elle qui, même si elle recuse la CENI, s'oppose au report par elle des élections municipales. Élections auxquelles elle annonce d'ailleurs participer malgré toutes les récriminations.
L'opposition politique nigérienne, celle que nous représentons, ira bel et bien aux élections, toutes les élections. Nous irons aux élections ne veut pas dire que nous irons tête baissée. Il appartiendra à la classe politique de se déterminer le moment venu sur un audit indépendant. Le président de la République qui en ce moment se trouve au Mali à vouloir faire une médiation, qui est incapable de faire une médiation chez lui, vous voyez, quand un père de famille ne peut même pas gérer sa famille, comment est-ce qu'il peut sortir pour aller gérer?
Pourtant, le président Issoufou Mahamadou s'active, en plus d'avoir fait le serment de ne plus se présenter à la fin de son deuxième mandat, à ce que les élections soient des plus crédibles. Il a demandé et obtenu auprès de l'Organisation internationale de la francophonie une expertise pour auditer le fichier électoral en cours de finalisation.
J'étais envoyé par la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Mme Louise Nouchitiwabo. Nous sommes reconnus comme étant parmi les meilleurs dans les évaluations des processus électoraux. Nous allons mettre donc cette expertise au service de la CENI. Nous allons ici évaluer, dans un cadre technique, évaluer le fichier électoral biométrique qui est en cours de finalisation avec la CENI et voir dans quelle mesure on peut auditer ce fichier pour que le Niger ait des élections transparentes, crédibles. C'est d'ailleurs le sujet que j'ai évoqué avec le président de la République.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Sénégal, l'Eid, communément appelé Tabaski, sera célébré le vendredi 31 juillet. Cette année, les vendeurs de moutons s'installent un peu partout dans la ville sans des mesures d'hygiène strictes. Durant cette période marquée par la pandémie de COVID-19, quelles sont les mesures prises pour protéger vendeurs et consommateurs? Sur place, notre correspondant à Dakar, Sedina Abagué.
La pandémie de la COVID-19 a durablement marqué les esprits. Chez les vendeurs de moutons, les mesures exceptionnelles imposées par la maladie sont respectées par certains. Dan Ying explique les précautions que lui et ses associés vendeurs ont déroulé pour assurer la sécurité des bêtes et des clients.
Ici, c'est nous qui élevons les moutons. Ils sont donc différents de ceux qui viennent des régions et de la sous-région. Chaque mouton est suivi par un vétérinaire. Une fois sur le point de vente, on continue cette surveillance. Même pour les moutons, on respecte la distanciation sociale. À son arrivée, chaque mouton est mis à l'écart pendant 2 jours pour voir s'il ne souffre pas de maladie avant de le mettre dans le troupeau. Les clients aussi ont peur si les mesures barrières ne sont pas respectées et on fait de notre mieux pour les mettre à l'aise en se conformant aux gestes barrières.
D'autres vendeurs de moutons sont moins prudents que Dan. À Guédiouaï, dans la banlieue de Dakar, les mesures barrières ne sont pas du tout respectées et les vendeurs comme Alpha Dem l'assument.
Actuellement, on est en plein dans la vente des moutons et pour dire vrai, on a même oublié l'existence du coronavirus parce qu'il n'y a aucune mesure barrière prise. Pour dire vrai, si les clients viennent ici, on ne prend aucune mesure barrière. Quand j'ai levé les moutons à la maison, je les ai vaccinés. Mais depuis qu'on a rejoint ce point de vente, il n'y a plus de suivi.
Pour mettre de l'ordre dans les points de vente, les autorités ont mis en place un protocole strict avec des mesures barrières que devront désormais respecter tous les vendeurs. Dr Mamadou Ousseynou Sakho, le secrétaire général du ministère de l'Élevage, affirme que tout le territoire national est concerné.
Ce protocole, nous l'avons partagé en réunion de coordination et nous l'avons divisé aux 250 postes vétérinaires, 45 départementaux, les 14 régionaux, pour que ce protocole soit véritablement suivi de manière rigoureuse. Aujourd'hui, les agents vétérinaires sont très outillés pour participer à cette sensibilisation, afin que nous freinions la propagation du virus, que nous rompions donc la chaîne de transmission.
Malgré la pandémie de la COVID-19, les autorités du ministère de l'Élevage assurent que le marché local sera suffisamment approvisionné en moutons pour la fête de l'Eid. Le secrétaire général du ministère de l'Élevage soutient aussi que les points de vente sont tous excédentaires et que chaque Sénégalais devrait avoir un mouton pour la Tabaski. À Dakar, Sédina Bagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Congo-Brazzaville, certains jeunes sont sceptiques quant à la pandémie de coronavirus. Pour eux, la maladie n'est pas présente dans le pays. D'autres, en revanche, veulent sensibiliser sur les dangers du coronavirus et attirer l'attention de leurs compatriotes. Reportage à Brazzaville de notre correspondant Arsène Séverin.
Nous sommes au marché Total, l'un des plus grands de Brazzaville. Le photographe le bon Chansar Ziavoula se sert de son appareil pour attirer l'attention de jeunes qui ne croient toujours pas à l'existence du coronavirus.
La personne est là, marque sa présence dans un milieu public, habillé en blanc, avec son masque et tout. Et les gens viennent finalement autour. Et là, vous avez des gens qui te posent des questions. Il y a le coronavirus. Et c'est une façon pour moi aussi, en tant qu'artiste, de porter un regard dans ma société. Donc les gens me posent des questions et tout de suite, je réponds. Je dis oui, la maladie existe.
Beaucoup de Congolais, en effet, développent un scepticisme face à la COVID-19. Les jeunes sont en première ligne.
Ici, chez nous, on n'a jamais vu. On croit quand même. Comme à l'église, on nous dit que Dieu existe, on croit, mais on ne l'a jamais vu.
Regardez seulement la condition de laquelle les gens circulent dans les marchés, dans les bus. On nous dit, dans les bus, il faut garder les distances. Mais quand nous nous battons pour entrer dans un bus, on s'en fout. Ah donc, pour d'autres, c'est un mythe. Même les chiffres que nous voyons à la télé, on se dit que c'est juste pour amuser le peuple.
À l'instar du photographe Ziavoula, des jeunes sensibilisent d'autres jeunes à la présence effective de la COVID-19 au Congo. Yohann Ibiliki, président de l'Association congolaise pour l'assistance sociale.
Nous avons organisé certaines activités afin de sensibiliser la population en général et les jeunes en particulier sur l'existence de cette maladie au Congo et comment il fallait faire pour se protéger. Ce que je peux dire à la jeunesse congolaise qui représente plus de la moitié de la population, c'est de faire preuve de civisme et de responsabilité face à cet ennemi invisible.
Thalès Zokele est artiste.
Il y a plusieurs interrogations, mais après nous, on ne peut pas toujours tomber dans cette naïveté. Il est temps de prendre ce problème à bras-le-corps.
Selon plusieurs témoignages recueillis dans la ville, le scepticisme se développe dans la société parce que les médias locaux ne montrent pas les malades de COVID-19 et que la prise en charge des cas déclarés n'est pas rassurante. Des propos que rejette la ministre de la Santé, Jacqueline Lydia Mikolo.
On a toujours tendance à être dans la rumeur, dans le trafic d'informations, contrairement à des personnes mal intentionnées qui font du trafic d'informations sur les réseaux sociaux. Nous avons bien des respirateurs, ils sont là, il y en a qui sont installés, il y en a qui ne le sont pas. Tout simplement parce qu'il y a encore des travaux.
Au soir du 22 juillet, le Congo-Brazzaville compte 2851 cas, dont 50 décès. Le pays est toujours sous l'état d'urgence. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump veut envoyer des agents fédéraux à Chicago et dans d'autres villes américaines dirigées par des maires démocrates pour faire face à ce qu'il a appelé le crime et l'anarchie totalement hors de contrôle. Cet effort de M. Trump est conforme à son discours de campagne, selon lequel le pays est dans le chaos et a besoin d'un candidat qui va rétablir l'ordre public. Patsy Widakuswara, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, repris ici par Lionel Gahima.
Les manifestations de Black Lives Matter se poursuivent aux États-Unis depuis la mort de George Floyd au mois de mai lors de son arrestation par des policiers blancs à Minneapolis. La plupart de ces manifs sont pacifiques, mais certaines sont marquées par des pillages et autres actes de vandalisme. Le président Donald Trump sévit avec une campagne de police fédérale appelée Opération Légende.
Cette effusion de sang doit prendre fin. Cette effusion de sang prendra fin. Aujourd'hui, j'annonce une vague de force fédérale dans les communautés en proie à des crimes violents.
Monsieur Trump envoie des centaines d'agents fédéraux à Chicago, Albuquerque et dans d'autres villes qui, selon lui, ont besoin d'aide pour arrêter le crime. Dans le passé, les responsables locaux ont demandé l'aide fédérale pour apaiser les troubles, mais les maires de 15 villes, dont Chicago, ont condamné cette semaine ce qu'ils appellent les déploiements unilatéraux de l'administration Trump. Lori Lightfoot est le maire démocrate de Chicago.
Des agents en cagoule se déplaçant dans des camionnettes, enlevant les gens de la rue, les privant de leurs droits constitutionnels, ce n'est pas à quoi ressemble une démocratie. Et nous n'allons pas avoir cela dans la ville de Chicago.
Monsieur Trump a envoyé des agents fédéraux à Portland et à Seattle, mais ils n'ont pas calmé les tensions. Laurie Wood est professeure de sociologie à l'Université Vanderbilt.
Envoyer des agents pour aller arrêter un groupe de personnes peut vous donner un moment de répit, mais cela ne vous apportera pas une paix durable.
L'envoi de la police fédérale est déjà contesté devant les tribunaux, mais cela peut aussi offrir un gain politique. Biden s'oppose au retrait du financement de la police. Il se dit en faveur du conditionnement de l'aide fédérale à la police. La campagne de Trump pousse le récit montrant un pays dans le chaos et qui a besoin d'un candidat pour restaurer la loi et l'ordre. So enseigne la politique raciale et ethnique à l'Université de Princeton.
Les candidats aux élections utiliseront souvent les conflits, des choses comme les conflits raciaux ou les émeutes interethniques, pour susciter le soutien de leur camp. Et nous avons déjà vu quelque chose comme ça, où la campagne Trump utilise des images de manifestations dans des endroits comme Portland dans leur publicité de campagne.
Malgré toute la rhétorique sur l'augmentation des crimes violents aux États-Unis, les données du FBI, la police fédérale, montrent que dans beaucoup de grandes villes américaines, il y a moins de criminalité aujourd'hui qu'il y a quelques décennies.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà. voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.